Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, 10h, 11h, Natacha Harry.
Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver chaque samedi matin, une heure ensemble pour parler de vos animaux. Alors au sommaire aujourd'hui, savez-vous qu'il est possible d'adopter un animal de laboratoire? Une association en a fait son cheval de bataille, elle s'appelle le Graal. L'une de ses représentantes, ainsi que le double champion du monde de canicross, qui est le parrain de cette association absolument géniale, seront avec nous tout à l'heure. Ils nous expliqueront comment se passent ces adoptions hors normes. Côté faune sauvage, c'est une balade en campagne que je vous propose ce matin. Un grand bol d'air qui nous permettra d'aller à la découverte de la biodiversité qui nous entoure, avec un guide expert, Pierre Rigaud, que vous connaissez très bien sur cette antenne. Enfin, dans C'est votre histoire, vos animaux vont relayer aujourd'hui un appel à l'aide, celui de Laurie qui se bat pour récolter des fonds nécessaires au sauvetage de son cheval Colt qui est actuellement hospitalisé après avoir été victime d'un tragique accident. 0826 300 300 si vous souhaitez réagir, échanger avec mes invités, n'hésitez pas à composer le numéro du standard de Sud Radio. À tout de suite.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Et ce matin dans vos animaux et vous, nous allons parler d'adoption. Mais attention, pas n'importe quelle adoption, l'adoption d'animaux provenant de laboratoires. Vous allez découvrir que oui, en France, il y a des animaux de laboratoire qui sont aussi des animaux de compagnie. Et heureusement, grâce à une association qui s'appelle le Graal, ces animaux ont parfois le droit à une retraite extrêmement heureuse dans une toute nouvelle famille. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Claire-Marine Schlegel. Bonjour Claire-Marine.
Bonjour Natacha.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Claire-Marine, vous êtes bénévole au Graal. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour nous présenter cette formidable association. Et puis bonjour également à Anthony Lemoigne.
Bonjour Natacha.
Anthony, vous êtes soutien et parrain du Graal. Et pour ceux qui s'intéressent de près au sport canin, vous êtes multimédaillé dans une discipline qui s'appelle le canicross. Deux fois champion du monde, trois fois champion d'Europe et bientôt d'autres titres encore. Et vous êtes un soutien actif du Graal.
Exactement, tout à fait. J'ai eu l'honneur d'être le parrain de cette association et on a pour projet de mettre différentes actions en place pour communiquer autour de cette belle cause.
Alors c'est vrai que cette cause est excessivement belle et louable. Claire-Marine, pouvez-vous nous expliquer à quoi sert le Graal ? Quelle est sa vocation ?
Alors, le Graal est une association qui compte environ 35 bénévoles, tout le monde est bénévole. Hein. Et en fait, on a vocation à être contacté ou à contacter les laboratoires qui souhaitent, en fin de protocole ou qui ont des animaux surnuméraires, réhabiliter les animaux dont ils n'ont plus besoin en fin d'expérimentation. Donc, on prend ces animaux en charge et on leur trouve des refuges.
Alors, quand on pense aux animaux de laboratoire, on pense peut-être en premier lieu aux souris, éventuellement aux lapins. Mais je ne suis pas certaine que l'ensemble de nos auditeurs s'imaginent finalement de la variété des espèces utilisées en France par les laboratoires. Quels sont les animaux que l'on trouve dans ces labos et qui servent finalement à réaliser des tests plus ou moins invasifs, heureusement, mais quand même réaliser des tests?
Alors, effectivement, il y a des rats et des souris qui représentent donc une partie des NAC, hein, des nouveaux animaux de compagnie, mais aussi il y a des cochons d'Inde, des lapins, des furets. Ensuite, on a aussi des animaux de compagnie plus classiques, entre guillemets, donc les chiens et les chats. Souvent, les chiens, ce sont des beagles. On réhabilite également des chevaux, mais aussi des primates, des animaux de ferme, des poissons, des lamas. C'est le Graal, la spécificité, c'est qu'on est une association en capacité de réhabiliter toute espèce confondue. Voilà.
On n'est pas là pour porter aujourd'hui de jugement sur l'intérêt d'utiliser ou pas des animaux dans les laboratoires, dans ces batteries de tests, mais plutôt de mettre en avant justement les actions que vous faites, c'est-à-dire trouver une nouvelle issue pour ces animaux. Ce sont des retraités en fait qui passent ensuite par vos soins pour trouver une famille d'accueil.
Voilà, effectivement, les laboratoires nous disent on a tant d'animaux de tel âge, alors ça peut être des chiots, des animaux plus âgés, et ensuite on trouve les refuges adéquats. Alors on essaye de les trouver au plus proche des laboratoires pour leur éviter des transports qui peuvent être longs et fatigants. Et ensuite ils sont placés en refuge, alors soit mis à l'adoption quand ce sont des espèces qui peuvent être adoptées, ou bien en zoo, refuge, sanctuaire, qui vont les garder toute leur vie.
Oui, parce que ça peut être des primates par exemple.
Par exemple, des primates, on a aussi des mini-pigs, donc des petits cochons, des coqs, donc voilà, les animaux de ferme. Des fois, c'est un peu plus difficile de trouver des adoptants en grand nombre. Et bon, et les primates, effectivement, ne peuvent pas être replacés chez des particuliers.
Alors, sans rentrer dans trop de détails, mais quel genre de tests subissent ces animaux pendant leur, entre guillemets, carrière d'animal de laboratoire ?
Alors c'est assez opaque, certains laboratoires nous communiquent dans les grandes lignes les études auxquelles ont participé les animaux, d'autres pas du tout. Donc il faut savoir que les animaux qui sortent en réhabilitation sont des animaux qui ont suivi des protocoles légers à modérés. Il y a un contrôle qui est fait par la direction départementale des populations, il y a un accord donc en amont de leur sortie, donc ce sont des animaux qui sont toujours en bonne santé. Et voilà, donc ça peut être des études de recherche médicale, de nutrition animale ou humaine, c'est assez vaste.
Anthony, en tant que soutien et parrain du Graal, justement, quel regard portez-vous sur les actions menées par le Graal et sur cette opportunité que l'association offre à ces animaux, qui est, j'imagine, loin de couvrir tous les besoins nécessaires pour les animaux de laboratoire?
Alors, je vais être très très transparent avec vous. Avant d'être contacté par l'association Graal, j'étais à milieu d'imaginer finalement le sort de ces animaux et leur utilité en milieu de laboratoire. Donc, c'est vrai que j'ai été très vite sensibilisé à ça. Et évidemment, ça coulait de source pour moi, qui aujourd'hui travaille avec des animaux. Mes chiens sont mes meilleurs amis, mes collaborateurs, des membres de ma famille à part entière. Et c'était évident pour moi de pouvoir apporter évidemment ma contribution. Et c'est vrai que le sort des animaux en général, et notamment des chiens qui sont utilisés dans les laboratoires, me porte à cœur. Et c'est vrai que j'ai trouvé la cause excessivement louable et j'ai trouvé qu'il fallait absolument communiquer au maximum au plus grand nombre pour que finalement le tout à chacun ait connaissance finalement de l'existence de ces animaux.
Et bien justement, on va donner la parole à Dominique. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Merci infiniment d'être sur l'antenne de Sud Radio ce matin. Dominique, vous faites partie de ces gens qui ont fait le choix d'adopter deux animaux de laboratoire. Vous pouvez nous les présenter ?
Absolument. Donc nous avons adopté deux beagles qui s'appellent Nano et Newt, qui avaient 2 ans et demi lorsqu'on les a reçus. Je tiens à dire que les beagles sont une race particulièrement agréable comme animal de compagnie.
Oui, c'est d'ailleurs, ça fait partie d'ailleurs des raisons pour lesquelles on les choisit pour les laboratoires, c'est que ce sont des chiens hyper faciles en fait.
Ce sont des chiens très faciles, très doux, avec beaucoup de caractère, mais très doux et pas du tout agressifs. Deuxième chose, je tiens à dire que l'organisation entre le Graal et la SPA qui nous a, le refuge qui nous a fourni les animaux est parfaite. On récupère des animaux en parfait état de santé avec un bilan médical, avec une puce, avec bien sûr l'opération qui permet de les stériliser, etc. Donc le process est très fluide, ça se passe très très bien. Et enfin, pour être en contact avec d'autres familles adoptantes, on a des chiens qui ressemblent tous au même portrait. Ils sont très timides, ils ont peur, ils ne sont pas habitués à la vie avec les humains. Et même quand vous les récupérez à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, ce sont des chiots en fait. Ils ne savent pas se promener en laisse, ils ne savent pas jouer, ils ne sont pas propres la plupart du temps. Donc il y a un vrai travail à faire pour l'adoptant. Ce n'est pas aussi facile que de prendre un chiot dans un chenil.
Bien sûr.
Mais par contre, ce sont des boules d'amour qui vous le rendent au centuple.
Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, Dominique, à rentrer dans cette démarche ?
Alors, moi, il me semblait évident que, voulant des chiens, et j'en voulais deux absolument pour qu'ils puissent se tenir aussi un petit peu compagnie, même si je travaille de la maison, donc je suis avec eux à 100% du temps, il me semblait évident d'essayer de coupler ça à une bonne action.
Et là, effectivement...
De contribuer à la réhabilitation de ces chiens qui le méritent parfaitement.
Alors, ce que vous décrivez comme situation, je pense, est très, très intéressante et très enrichissante en termes d'informations. Quand on prend ces chiens, même quand ils sont adoptés à un âge adulte, ce sont des chiens qui ne connaissent rien de la vie. Ça a dû vous étonner, Absolument. Ça, peut-être, au début.
Absolument. Tout à fait. Au début, c'était très drôle. On leur lançait une balle, ils regardaient la balle partir, ils ne comprenaient pas ce qu'il fallait faire avec
la
balle.
Oui, parce que leur vie a été dédiée au laboratoire, sans vie de proximité avec des êtres humains, sans être confrontés au bruit environnant, etc. Enfin, à ce qui est pour nous une vie normale, mais qui ne l'était pas pour
Absolument.
Eux. Combien Absolument. De temps ont-ils mis à s'habituer ?
Il faut savoir que le vent dans les feuilles, ça les fait aboyer.
D'accord. Combien de temps ont-ils mis à s'habituer à peu près à la nouvelle vie qui leur était offerte ?
Oh, je vais te dire 6 mois.
6 mois quand même.
Oui.
Mais par contre, en termes d'amour, vous le disiez, ce sont des boules d'amour pour reprendre vos propos. Vous avez le sentiment qu'ils sont presque reconnaissants de cette nouvelle vie pour eux ?
Ah, complètement. Complètement. Ils ne nous quittent pas. Je sors dans le jardin, ils sortent dans le jardin avec moi. Je rentre dans la maison, ils rentrent dans la maison. Je change de pièce, ils changent de pièce. Ils sont devenus complètement dépendants à notre présence.
Et vous à la leur, j'imagine ?
Et nous à la leur, bien sûr.
Eh bien, merci beaucoup, Dominique, pour ce très beau témoignage qui, je crois, résume assez bien, finalement, comment se déroulent ces adoptions, surtout quand il s'agit de chiens. Claire Marine, j'imagine que les gens qui nous écoutent ont peut-être des freins à se lancer dans cette démarche d'adoption en se disant « mais on va récupérer un animal traumatisé qui a vécu des choses difficiles ». Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ?
Alors que majoritairement, et heureusement, ce n'est pas le cas. Après, effectivement, comme Dominique le disait, il faut s'attendre effectivement à avoir un petit décalage avec un chiot qui sortirait d'un élevage, par exemple. Après, c'est vraiment différent d'une situation à l'autre. Ils ne sortent pas tous au même âge, ils n'ont pas subi les mêmes expériences, ils n'ont pas été placés dans les mêmes laboratoires. Donc vraiment, chacun a un parcours différent. Mmh. Et voilà, avec du temps, de la patience... De l'échange, on arrive à construire quelque chose et qui est d'autant plus valorisant quand forcément vous voyez les progrès que fait le chien en binôme. Forcément, c'est beaucoup plus valorisant, effectivement.
Bien
Après,
sûr.
Il y aura des choses à apprendre comme avec un chien.
Et quel est le parcours de l'adoptant potentiel ? Par quoi doit-il passer entre le moment où il se dit « Tiens, j'ai envie de rentrer dans ce programme proposé par le Graal » et le moment où il reçoit son animal ?
Alors déjà, je pense qu'il y a une grande réflexion à faire en famille, hein, avant toute adoption. Il faut vraiment que ça soit réfléchi. Il faut aussi, alors je conseillerais souvent, notamment pour les beagles, ils ont parfois une réticence à l'homme, certainement parce qu'ils ont vécu au laboratoire. Donc on a eu des adoptions qui ont été un peu compliquées à mettre en place, parce que ça se passait très bien avec la dame. Et D'accord. avec le monsieur, c'était plus compliqué. Donc vraiment, il faut que toute la famille prenne la décision, soit prête à s'engager, et ensuite nous suit sur les réseaux, et au fur et à mesure des sorties, des réhabilitations, on indique dans quel refuge se trouvent les animaux, dans quelle région.
Oui, parce que vous, pour bien préciser les choses, vous n'avez pas de refuge. Donc vous travaillez avec des associations et des refuges qui prennent vos animaux et ensuite qui les placent.
C'est ça. Donc en fait, effectivement, on reçoit beaucoup de demandes de personnes qui nous disent ben voilà, j'ai un jardin, je veux adopter un chien, comment je peux faire ? Nous, à notre niveau, on s'occupe de placer en refuge. Après, les adoptions se font aux conditions de chaque refuge. Donc là, après, c'est aléatoire. Selon le refuge, certains sont OK pour des adoptions par département, d'autres sur toute la France. Il faut vraiment voir ça au cas par cas avec les refuges. Nous, on annonce les sorties, les dates, le nombre d'animaux, leur espèce. Et ensuite, il faut se rapprocher des refuges.
Mais voilà, en vous suivant sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, on sait lorsqu'il va y avoir une sortie. Et généralement, une sortie, ce n'est pas un animal, mais c'est vraiment un lot complet, même si l'expression n'est pas très heureuse.
Oui, alors, il peut, des fois, il arrive que ça soit un animal, voire deux. Mais généralement, effectivement, les laboratoires, en fin de protocole, ont plusieurs animaux à placer. Donc, effectivement... Le chiffre est un peu plus haut. Donc oui, sur nos réseaux sociaux, on annonce toutes les sorties. C'est déjà une grande fierté pour nous. Et puis pour justement prévenir les gens de la disponibilité, entre guillemets, des animaux dans les refuges.
Par curiosité, combien d'animaux à peu près avez-vous placé depuis le début de la création du Graal ?
Alors la première réhabilitation a eu lieu en 2005. C'est un chien qui a été réhabilité de laboratoire par Marie-Françoise Lheureux, notre présidente. Et depuis, on est à environ 4500 animaux réhabilités. On espère en 2021 arriver au chiffre symbolique des 5000. Je pense qu'on est en bonne voie pour le faire. Donc voilà.
On va maintenant donner la parole à une autre adoptante du Graal, c'est Emmeline. Bonjour Emmeline.
Bonjour.
Alors vous, Emmeline, merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio aujourd'hui. Vous n'avez pas adopté ni un chien ni un chat, mais un lapin.
Tout à fait.
Racontez-nous.
Et même une lapine. Donc c'est une lapine géante de Bouscat qui s'appelle Ola.
Oui.
Elle va bientôt avoir un an et ça fait 2 mois qu'elle est parmi nous.
D'accord.
Donc en février, en fait, on recherchait à adopter une lapine et pour moi, ça a été une découverte, hein, l'association Le Graal, hein, parce que je ne savais pas du tout qu'il y avait des animaux qui étaient réhabilités, hein, des laboratoires. Donc ça a vraiment été une découverte et pour moi, c'était sûr de la choisir elle et pas une autre lapine.
Vous aviez déjà eu des lapins par le passé ?
Tout à fait. En fait, j'avais un couple de lapins et on avait perdu notre lapine. Et justement, après quelques mois, on cherchait à adopter une nouvelle lapine pour du coup tenir compagnie à notre lapin actuel.
Et alors, comment s'est adapté Ola à cette nouvelle vie, à cette nouvelle famille ?
Alors au début, elle était très craintive. En fait, elle avait peur des bruits. Donc par exemple, les bruits de la télé, la radio. Donc il fallait beaucoup la rassurer en la caressant, en lui disant que c'était normal. Et puis au fil des jours et des semaines, elle s'est très vite habituée. Donc maintenant, elle partage du coup la vie avec notre lapin.
Et, il est content d'ailleurs d'avoir une nouvelle copine ?
Tout à fait, tout à fait. Ça se passe très bien et c'est vrai qu'elle nous remercie beaucoup. Enfin, elle est très attachée à nous parce que dès qu'on lui fait des caresses, elle nous laisse derrière pour nous remercier. Donc vraiment, on est très content de l'avoir adoptée.
Ouais, vous avez l'impression qu'elle est apaisée maintenant.
Tout à fait, c'est exactement ça.
Eh bien, merci beaucoup Emmeline, une fois de plus pour ce témoignage qui montre que non seulement le Graal réhabilite des chiens, des chats, mais aussi des lapins, des chevaux. Et je crois même qu'en ce moment, Claire Marine, vous avez un groupe de souris, c'est bien ça ?
Alors, ce sont des rats.
Ah, de rats, pardon.
Une réhabilité d'ampleur de 120 rats,
ah oui,
en Ile-de-France à placer. Donc effectivement...
Avis aux volontaires.
Voilà, c'est un super challenge qu'on va relever. On est en train de leur trouver des refuges, des endroits où passer leur retraite. Donc oui, effectivement, nous appelons à toutes les bonnes volontés qui ont des refuges ou des familles d'accueil qui peuvent adopter ou accueillir des rats en attendant qu'ils soient adoptés, de se manifester en Ile-de-France.
Mmh. Anthony Lemoigne, j'imagine qu'une fois de plus, quand vous entendez les témoignages, que ce soit Dominique, Emmeline, vous vous dites que vraiment, c'est un bel engagement.
Oui, alors c'est vrai que c'est un bel engagement et encore une fois, je pense que la réussite de tout ça passe vraiment par la communication et le fait qu'un maximum de personnes connaissent un petit peu ces démarches et qu'ils puissent s'y engager. On a vu qu'il fallait quand même avoir un petit profil particulier, en tout cas pour des chiens qui peuvent avoir des comportements, et donc à mon avis, il faut un petit peu de connaissance du chien en général. Mmh. Mais évidemment, je pense que de communiquer autour de toutes les actions va les mener vers la réussite. Donc c'est vrai que c'est vraiment louable. Et moi, quand j'entends les gens parler, j'entends surtout leur cœur parler.
Oui,
et
c'est vrai.
Que finalement, c'est ça qui fait aussi la beauté de toutes ces démarches et de toute cette association finalement entre les gens, l'association Graal et puis évidemment aussi le milieu de la recherche qui fait aussi un petit geste pour finalement aider à avoir la fin de vie la plus heureuse possible pour ces animaux.
Oui, parce que on peut voir le côté sombre de la chose en se disant que c'est affreux d'utiliser ces animaux dans les laboratoires, et c'est une réalité. Mais il faut aussi voir les efforts qui sont faits par certains laboratoires pour trouver justement une fin de vie heureuse pour ces animaux. Et ça, c'est une initiative qu'on ne peut que saluer. Anthony, c'est quoi votre programme sportif là ? Parce que j'imagine qu'avec la Covid, c'est un peu compliqué en ce moment.
Oui, ça a été une grosse adaptation là depuis 13 mois maintenant. Alors là, en toute logique, il devrait y avoir les championnats du monde de canicross qui devraient se tenir en octobre.
Oui.
Et puis la finale
en
de
France,
la Coupe
hein, c'est
qui,
ça.
En France, exactement, en Bretagne. Et puis la finale de la Coupe du monde qui devrait avoir lieu 15 jours plus tard au Canada. Mais évidemment, on est encore un petit peu suspendu à toutes les directives et l'évolution finalement de la crise
de la crise sanitaire.
C'est ça, exactement.
Et comment continuez-vous à vous entraîner? C'est quoi le quotidien d'un sportif de haut niveau comme vous? Parce qu'aujourd'hui, d'abord, c'est votre métier. Et le canicross, c'est vraiment... c'est du sport, quoi.
Oui, et c'est vrai que c'est du sport. Et surtout, il y a...
Vous courez combien de kilomètres?
Alors, je cours évidemment tous les jours. Ça varie. Ça va être entre 10 et 15 kilomètres par jour.
D'accord.
Mais au-delà de ça, c'est l'intensité à laquelle je vais courir ça. Mais surtout... c'est que mes chiens, eux, ne demandent rien, pandémie ou pas. Ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de se défouler, ils aiment ça. Et donc, je garde mon rythme d'entraînement, même s'il n'y a pas d'échéance sportive à court terme, là, dans l'immédiat. Et c'est vrai que c'est des bons moteurs, finalement, parce que dans leurs yeux, on voit que eux, ils sont demandeurs. Donc, on maintient, évidemment, le rythme d'entraînement ordinaire. Voilà. Mais effectivement, il y a de l'activité tous les jours, que ce soit de la natation, que ce soit du vélo, que ce soit de la course à pied. Et évidemment, dans chacune de ces disciplines, mes chiens m'accompagnent, évidemment.
Et en compétition, vous courez combien de kilomètres avec vos chiens? Comment ça
Alors,
se passe?
C'est très, très court. Le canicross, c'est de 3 à 5-6 kilomètres.
Oui.
C'est pas très long.
Mais c'est très rapide.
C'est ça, c'est très élevé. En championnat du monde, on fait 5 km aux alentours des 24-25 km/h.
Ah oui, quand
Mais
même.
Je tiens à dire à l'ensemble des auditeurs.
Je ne viendrai pas avec vous, Anthony, hein. Ou alors en vélo à côté et encore.
mais par contre, ce qui est important de savoir, c'est que le canicross est vraiment accessible à tous. Et ça, j'insiste, quelle que
c'est
soit la race du chien au niveau du coureur. Donc, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui se disent moi, j'aimerais bien essayer de faire du canimarche ou du canicross avec mon chien, il ne faut pas hésiter, il faut vraiment se rapprocher d'un club. Il y a eu à peu près 200 clubs en France aujourd'hui et d'essayer l'aventure parce que c'est du gagnant-gagnant pour le chien et l'humain, évidemment.
Oui, chacun à son niveau, évidemment. Hein, on adapte à l'état de santé de son animal, à son propre état de santé. Anthony,
Exactement.
Merci beaucoup d'abord de soutenir le Graal. C'est vraiment un bel engagement pour un sportif et champion comme vous. Et puis, merci à Claire Marine d'être venue nous parler du Graal ce matin parce que vraiment, c'est une initiative comme on les aime dans cette émission. Merci à vous. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, 10h, 11h, Natacha Harry.
Bon samedi matin à tous. Merci à vous d'écouter Sud Radio. Nous sommes ensemble encore pendant près de 30 minutes. Vous écoutez vos animaux et c'est l'heure de notre séquence à l'état sauvage.
Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Et je vous avais promis une balade en pleine campagne. Elle va être enrichissante puisque c'est Pierre Rigaud, naturaliste, qui sera notre guide. Bonjour Pierre.
Bonjour Natacha.
Merci beaucoup Pierre d'avoir une nouvelle fois accepté cette invitation. Mais alors aujourd'hui, on arrive avec un livre que vous venez de sortir. Ça s'appelle « Ma campagne ». C'est aux éditions Belin. Tiens, je le montre pour ceux qui nous suivent hein, sur la chaîne YouTube de Sud Radio ou sur nos réseaux sociaux. « Ma campagne », c'est le premier opus d'une longue série peut-être.
Oui, il y a 4 autres numéros qui seront prévus. On parlera ensuite de la forêt, de la montagne, du littoral, de la ville. Et on commence avec ma campagne, avec un adjectif possessif qui ne veut pas dire que c'est la campagne de Pierre Rigaud ou la mienne. C'est que l'idée de s'approprier un petit peu la campagne dans laquelle on vit ou dans laquelle on se promène pour prendre soin notamment de ce qui peut être menacé.
Alors c'est vrai qu'on vous connaît extrêmement militant, hein, vous défendez de nombreuses causes pour préserver l'environnement, pour préserver la faune, la flore. Là vous avez vraiment choisi finalement de nous emmener en toute discrétion, presque sur la pointe des pieds, se promener dans notre campagne pour aller découvrir des choses qu'on ne voit pas quand on s'y balade comme ça sans faire attention. Et c'est vraiment d'une richesse folle. Il y a d'abord peut-être tous ces petits insectes qu'on voit sans voir réellement, qui sont pourtant d'une immense utilité.
Oui, c'est ce qu'on appelle la nature ordinaire, qui parfois ne saute pas aux yeux, parce que ce n'est pas les girafes dans la plaine africaine, mais c'est tout aussi passionnant, je trouve.
C'est sûr que on aperçoit une girafe dans notre campagne, là, il faut s'étonner, c'est qu'il y a un souci.
Il faut s'étonner. Mais il y a des choses qui sont très discrètes et très étonnantes aussi, et justement, les petits insectes, là, avec le printemps, commencent à sortir, et... on a plein d'abeilles qui, je trouve ça assez passionnant, plein d'abeilles qui ne sont pas les abeilles domestiques. Dès qu'on parle des abeilles, on pense tous à l'abeille butineuse qui nous fait le miel quand on l'utilise dans l'apiculture. Mais en fait, il y a des centaines d'espèces d'abeilles sauvages rien qu'en France, et alors en Europe et dans le monde beaucoup plus. Et ces abeilles sauvages, elles passent assez inaperçues. Elles sont de couleurs, de formes assez variables. On se dit bien que c'est des petites abeilles, mais qu'elles n'ont pas la tronche habituelle de nos abeilles domestiques.
Donc on se demande un petit peu ce que c'est.
Et oui, et elles ont un rôle absolument essentiel, parce que on dit souvent que si les abeilles disparaissaient, ça serait catastrophique pour la pollinisation des plantes, tant les plantes sauvages que les plantes cultivées. Mm-hmm. Mais cette disparition qu'on peut craindre des abeilles, c'est au moins aussi grave si les abeilles sauvages disparaissent que les abeilles domestiques. Parce que les abeilles sauvages ont un rôle absolument essentiel dans la pollinisation des plantes sauvages, justement, et des plantes domestiques aussi. Donc, elles ont parfois chacune leur spécialité. Elles ne vivent pas dans des ruches, ou elles ne vivent pas en colonie pour la plupart d'entre elles. Ce sont pour la plupart des abeilles dites solitaires. Donc, c'est pour ça qu'elles sont un petit peu plus discrètes aussi. C'est pour ça qu'il faut prêter un peu attention. Mais quand on observe, même parfois très près des maisons, des osmies, par exemple, qui cherchent des petites cavités dans les murs pour faire leur nid, pour y installer leurs larves. Quand on voit sur des fleurs n'importe quelle des petites abeilles comme des collettes, il y en a une dont le nom fait rire, c'est la collette lapin, qui n'a rien à voir avec un lapin, mais on l'appelle comme ça parce qu'elle fait son nid dans des sols un peu sableux, elle creuse un terrier un petit peu comme un lapin.
C'est assez poétique.
Oui, et alors, ces abeilles-là, en fait, elles sont... Leur diversité est assez menacée par plein de facteurs et qui sont quand même essentiellement l'agriculture intensive. Et c'est pour ça que c'est, dans ce livre-là, on a essayé de faire, avec Arnaud Tételin, l'illustrateur, de faire le lien entre la biodiversité dite ordinaire et puis les grands enjeux de protection de la biodiversité, pour que ce soit du concret. Et
que oui, parce qu'on parle aujourd'hui de biodiversité à tout bout de champ. Finalement, ça finit par presque galvauder ce terme, alors que la biodiversité, c'est une réalité concrète qui se manifeste dans nos campagnes, qui se manifeste dans nos jardins, sur nos balcons, dans nos parcs de citadins, partout.
Partout, et il suffit juste d'un petit peu de curiosité pour en apprendre énormément, parce que dès lors qu'on s'intéresse, si on prend le cas des abeilles, on peut prendre le cas de plein d'autres choses. Il y a des centaines d'espèces différentes qui chacune ont leur particularité, leur mm-hmm. les plantes qu'elles vont butiner pour des papillons, ça va être quelles plantes elles vont, chaque papillon va choisir pour pondre son œuf, puisque chaque chenille va pour certaines espèces ne s'intéresser qu'à pour certaines espèces de papillons, pardon, elles ont besoin d'une ou deux espèces de plantes particulières. Donc toute cette diversité là, en fait, dès qu'on est un petit peu curieux, ça devient tout de suite l'engrenage. Franchement, si on met le doigt dedans, on devient naturaliste à la fin.
La relève va se préparer, Pierre Rigaud. Alors il y a une cinquantaine d'entrées thématiques dans cet ouvrage. Et à chaque fois, vous ne faites pas finalement une description de ces espèces pour qu'on arrive à les reconnaître, mais simplement vous attisez un peu notre curiosité pour qu'on prenne le temps de regarder ce qui nous entoure. C'est vraiment ça votre idée, si je ne me trompe pas. Et il y a tous ces animaux du milieu aquatique qui retiennent beaucoup votre attention dans cet ouvrage. Alors, il y en a qu'on connaît de mieux en mieux, les loutres, les castors qui font leur retour. Et puis, il y a des plus petits, les crapauds, les grenouilles.
Oui, les milieux aquatiques, on entend souvent dire que les zones humides disparaissent. Et derrière ce terme de zones humides, il y a tout un tas de marais, de fossés, de petits ruisseaux qui en effet disparaissent. Alors soit comblés pour l'urbanisation, soit comblés pour l'agriculture. Et à chaque fois, c'est toute une richesse qui disparaît avec. C'est pour ça qu'il faut absolument préserver ces endroits dans lesquels vivent en effet toute une diversité d'animaux fabuleux. Alors, ils sont souvent très discret, hein. Franchement, les loutres, on n'en voit pas tous les matins, même dans les rivières où elles sont présentes. Il faut vraiment s'armer de patience, et encore, même avec beaucoup de patience, c'est quand même très très compliqué.
On peut voir peut-être quelques traces.
On voit des traces, parce que ces animaux, comme les loutres ou les castors, qui maintenant reviennent, et c'est une très bonne nouvelle, elles recolonisent peu à peu, mais elles avaient été exterminées par les humains, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles nous craignent, et qu'elles ne sortent quasiment que la nuit. Et puis, il y a tout un tas de petits amphibiens qui, eux aussi, sont très menacés, parce qu'ils sont complètement dépendants des milieux aquatiques, non seulement de la présence de ces milieux aquatiques, que les zones humides ne soient pas drainées, mais aussi de la qualité, qu'il n'y ait pas trop de pollution due à l'agriculture ou à l'industrie, que les eaux soient encore relativement propres. Et on trouve des crapauds qui ont un mode de vie assez remarquable, puisque par exemple, pour la plupart des grenouilles et crapauds qu'on observe dans la campagne, il faut savoir que les zones humides sont indispensables pour eux et pour elles qu'à un moment de leur vie, pour la reproduction, quand elles vont se reproduire et donner naissance aux têtards. Mais sinon, par exemple, les crapauds vivent l'essentiel de leur année en dehors du milieu aquatique. Par exemple, ils vivent dans des bois qui sont à côté ou même dans des jardins, et puis ils doivent migrer au printemps pour aller se reproduire dans les milieux aquatiques. Et donc, quand on veut protéger ces animaux-là, il faut protéger non seulement les zones humides, mais ce qu'il y a autour. Et en fait, c'est la diversité des paysages, la mosaïque de milieux agricoles, les haies, les bosquets, les bois, toute cette diversité de milieux et de plantes qui fait qu'il y a une richesse d'animaux, de petits animaux et ensuite de grands animaux, parce que les crapauds eux-mêmes seront la proie d'autres animaux plus grands, comme les loutres finalement. Donc c'est une chaîne, en fait. C'est une chaîne.
Alors justement, vous parliez des haies à l'instant. Les haies, c'est un vrai sujet dans nos campagnes. Elles ont disparu au profit d'une agriculture intensive, mais on se rend compte aujourd'hui à quel point elles sont indispensables.
Oui, c'est pas nouveau que les haies disparaissent, ça fait depuis les années 50-70 et l'avènement de l'agriculture industrielle, disons que les haies ont été rasées pour faire des parcelles plus grandes. Mais aujourd'hui, on sait que dans les haies, il y a la plupart, par exemple, des oiseaux chanteurs des campagnes. Ça paraît incroyable que quand on sort au printemps le matin en ce moment, on entend chanter dans les campagnes, on entend plein d'oiseaux, on les voit pas.
Mais même dans les villes, mon cher Pierre.
Oui, même dans les villes. Alors, dans les campagnes... Si le paysage est un peu plus diversifié, il peut y avoir plus d'espèces d'oiseaux chanteurs, c'est pas toujours les mêmes. Et puis il y a des espèces d'oiseaux qui dépendent complètement des haies et qui là, pardon, mais que vous ne verrez pas dans les villes. Par exemple, si on pense aux pigrièches écorcheurs, ces passereaux qui chassent des insectes et qui installent leur nid bien caché dans une haie profonde, eh bien ces oiseaux-là, ils ont besoin de la présence de la haie pour vivre, hein, parce que à l'origine ils vivaient dans des buissons, dans des lisières forestières, mais maintenant la campagne évidemment est un milieu qui est complètement travaillé par l'être humain depuis longtemps, donc en fait ils ont trouvé des milieux de substitution, et la haie est un milieu de substitution à une végétation naturelle, et maintenant ils sont dépendantes de ce que les humains font ou ne font pas avec les haies, donc ils ont besoin de haies pour se cacher, et ils ont besoin d'insectes pour se nourrir, par exemple je prends le cas de la pigrièche écorcheur, mais il y a plein d'autres passereaux qui ont besoin d'insectes, et ces insectes-là, leur présence dépend d'une agriculture qui ne met pas trop de pesticides. Donc vous voyez, tout est complètement connecté. Et si on veut protéger les oiseaux, il faut faire attention à l'agriculture, il faut faire attention à préserver les milieux, tout est absolument lié.
Il y a un autre chapitre qui m'a étonnée dans cet ouvrage. C'est un chapitre qui est dédié aux chats, mais pas forcément les chats que l'on connaît dans notre quotidien, parce que vous parlez des chats des champs.
Oui, alors je les appelle les chats des champs pour faire le parallèle avec les chats des villes, bien qu'il y ait bien sûr des chats domestiques qui se baladent aussi dans les campagnes. Mais en fait, je veux parler du chat sauvage ou chat forestier, qui est souvent confondu avec des chats domestiques qui peuvent s'éloigner des habitations. Le chat forestier ou le chat sauvage, c'est le chat qui vivait en Europe avant que l'être humain introduise en fait les chats domestiques qui viennent, comme vous savez, d'Afrique de l'Est, du Proche-Orient, et qui ont été domestiqués par les humains avant d'être importés, et qui maintenant en fait sont beaucoup plus nombreux que les chats forestiers. Et les chats forestiers, qui sont généralement très discrets, qui s'approchent pas des maisons et qui sont des prédateurs naturels dans les forêts à l'origine en Europe et aujourd'hui dans les prairies, dans les campagnes françaises et européennes, ces chats-là, alors c'est une bonne nouvelle aussi parce que ils reviennent un peu, ils sont de moins en moins rares par rapport à l'extermination qu'on en a faite au 19e et au début du 20e siècle. Mais maintenant, ils sont quand même fragiles et comment dire, un peu aussi dépendants du bon vouloir des humains à les préserver. Parce que
est-ce qu'on a une idée d'ailleurs du nombre de chats forestiers que l'on peut trouver sur notre territoire ?
Aucune idée du nombre. On sait qu'ils sont présents essentiellement dans le nord-est du pays, dans le centre de la France et un peu dans le sud-ouest essentiellement. Ils ont toujours une densité assez faible, rien à voir avec des chats domestiques errants qui se nourrissent, par exemple, autour des villes où là on peut voir 10 chats sur le même endroit. Les chats forestiers, c'est pas du tout le cas. Ils ont chacun un territoire qui est assez grand et chacun, ils sont vraiment solitaires et chaque chat défend son territoire. Donc c'est vraiment pas du tout le même fonctionnement. Disons que c'est le fonctionnement naturel qui permet de limiter naturellement les densités. Mais c'est quand même, je trouve, réjouissant de voir que maintenant qu'ils sont protégés, ça fait déjà plusieurs décennies qu'ils sont protégés, ben peu à peu ces chats forestiers reviennent. Il leur faut quand même un milieu suffisamment préservé. Donc si c'est des champs à perte de vue d'agriculture intensive, on ne trouvera pas de chats forestiers. Mais dès lors qu'il y a suffisamment de milieux préservés et qu'on les laisse un peu tranquilles, eh bien, ils reviennent tout seuls. Il n'y a pas besoin de faire des réintroductions. Et moi, je trouve que c'est assez réjouissant.
Pierre, on connaît bien sûr votre côté militant en faveur de la nature, de l'écologie. Alors forcément, vous avez terminé cet ouvrage avec une liste d'associations où l'on peut s'engager sur différents sujets. Alors la liste est très longue, mais si vous en aviez une à nous présenter ce matin, ce serait laquelle ?
Alors ça, c'est la question la plus difficile, oui. Parce que je vais en fâcher.
C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin.
Non, mais je vais faire simple. Écoutez, je me suis demandé quelle association on pouvait mettre en avant. Alors, ce n'est pas du tout original et tout le monde la connaît de nom, mais il se trouve que je suis adhérent depuis longtemps à Greenpeace, à ce ONG bien connu. Oui. Mais il se trouve que vous allez me dire quel est le lien avec... Non, vous n'allez pas me dire, mais je
dis quand même. Allez-y, vous pouvez faire les questions à ma place, je vous en prie, Pierre. Vous ferez la réponse aussi en même temps. Je vais prendre un café et puis je reviens dans 5 minutes.
Non. Mais disons qu'on parle des... Là, on parle des grenouilles, des insectes, des papillons, ouais. Et tout. On se dit, mais Greenpeace, c'est les grands. Et justement, c'est ça que je trouve passionnant et que d'ailleurs, j'ai essayé de faire le lien dans le livre, c'est-à-dire le lien entre la biodiversité concrète qu'on voit, qu'on observe, qu'on entend, qu'on sent, qu'on touche dans les campagnes quotidiennes, et puis les grands enjeux qui sont complètement liés. Pour protéger la diversité des papillons, pour protéger la diversité des oiseaux, il faut une agriculture respectueuse. Eh bien, l'ONG Greenpeace, mais comme beaucoup d'autres, hein, j'ai pris celle-là comme exemple, depuis longtemps, travaille sur les grands enjeux, notamment, là en ce moment, j'ai vu qu'il y avait une campagne sur... de Greenpeace sur pour nous alerter sur les nouveaux OGM, les plantes génétiquement modifiées. Et en fait, quel rapport? Le rapport, c'est que ces plantes-là, souvent, ont été utilisées en agriculture dans le cadre d'une agriculture intensive avec beaucoup de pesticides. Et donc, ces grands champs pesticidés, c'est ça qui fait disparaître les insectes et c'est ça qui fait disparaître les oiseaux. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant. Si on veut s'engager, il y a 1000 façons de le faire. Mais on peut le faire dans une grande ONG comme Greenpeace pour les grands enjeux environnementaux, puis on peut le faire bien sûr dans une association locale, c'est tout aussi essentiel.
Voilà, dans votre livre, il y a quoi? Allez, une petite cinquantaine certainement d'associations qui sont listées.
Un peu plus même.
Un peu plus. Ça vous donnera à tous l'occasion de découvrir peut-être près de chez vous une association où vous pourriez vous engager, avoir des actions concrètes de terrain. Merci infiniment Pierre Rigaud pour cette présentation. Je rappelle le titre de votre ouvrage et je le montre aussi sur l'antenne de Sud Radio sur nos réseaux sociaux, Ma Campagne. Et les illustrations sont signées d'Arnaud Tételin. Voilà, Ma Campagne aux éditions Belin. Allez, merci Pierre. On marque courte pause et on se retrouve d'ici quelques minutes.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente
Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire.
Aujourd'hui, dans C'est votre histoire, nous allons vous raconter l'histoire de Laurie et de son cheval qui s'appelle Colt. Une histoire qui avait tout pour bien démarrer, bien se passer. Malheureusement, Colt a été victime d'un terrible accident. Et alors, une fois n'est pas coutume, on va relayer une cagnotte en ligne pour aider Laurie à soigner son cheval, à payer les frais vétérinaires. Bonjour Laurie.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio aujourd'hui. Avec Colt, vous vivez depuis plusieurs années une magnifique histoire. Il faut dire que c'est un cheval qui est un peu hors norme pour vous.
Oui, c'est vrai. Il était pas du tout ce que je voulais, que ce que j'attendais à la base. Et en fait, j'ai eu un vrai coup de cœur dès que je l'ai vu, dès que je l'ai ne serait-ce qu'aperçu. Et c'était un cheval très 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 difficile. Il avait un fort fort caractère et c'était pour ça que ses anciens propriétaires, qui sont des gens formidables, le vendaient parce qu'ils n'arrivaient plus à le gérer. Et au final, ça a été la meilleure décision de ma vie.
Alors, il faut préciser quand même que Colt, c'est un quarter horse.
C'est ça, un quarter horse, ouais.
Avec donc un gros tempérament, mais entre vous deux, c'est l'amour fou.
L'amour fou dès le début et alors après il a toujours eu ce petit caractère, mais au final je me suis rendu compte que lui, ce qu'il aimait le plus, c'était les humains. Les humains surtout. Oui. Et c'est surtout mon fils, il y a grimpé dessus sans mon consentement. Je me suis retrouvée devant alors qu'il avait la selle, mais j'étais pas au courant qu'il allait monter dessus.
Il avait quel âge votre fils quand il a fait ça?
Il avait 6 ans.
Ah, quand même.
Il a réussi à le mettre à côté d'une barrière. Il m'a Moi, je me suis vite mis à côté, puis je me suis rendu compte que le cheval, il n'avait pas du tout le même tempérament qu'avec moi. Et en fait, s'en est suivi évidemment toujours à mes côtés et quelques temps d'adaptation. Mais au final, je me suis rendu compte qu'il ne lui refusait rien. Par exemple, il avait peur des flaques d'eau. C'était impossible de passer en flaque d'eau avec moi. Par contre, mon fils, il pouvait y aller, il passait 3-4 fois dessus, il n'y avait jamais aucun problème, il lui a tout laissé permis, enfin, il lui a, Il est formidable. C'est son meilleur ami.
Je crois que beaucoup de cavaliers, hein, de gens qui ont possédé des chevaux et qui nous écoutent ce matin, comprendront votre histoire. Il y a parfois des liens comme ça, tout à fait hors normes, qui peuvent se nouer avec un cheval. Et on ne sait pas pourquoi, mais ça se passe et ça se passe à ce moment-là. Alors ça, c'était le joli début de l'histoire. Malheureusement, Colt a été victime d'un accident malheureux, tragique. Racontez-nous ce qui s'est passé, Laurie.
Eh ben, tout comme il aime ses humains, il aime sa compagne de près, en fait, même mon autre jument. Et j'ai voulu les mettre en pâturage pas loin de chez moi pour qu'ils puissent profiter de l'herbe, de la bonne herbe de printemps. Et en fait, ce que j'avais pas prévu, c'est qu'il allait avoir un autre parc à côté qui, lui, était avec des barbelés. Mais bon, après, les miens, ils ne touchent pas les clôtures. Mais le problème, c'est que dans ce pré-là, il y avait un âne. Et cet âne-là a montré de suite beaucoup, beaucoup d'agressivité. Et surtout, en fait, ma jument s'est déclenchée un peu en chaleur. Et elle se promenait, elle faisait un peu sa maline autour. Et Colt s'est de suite mis entre elle et l'âne. Et il était très stressé, il se mettait entre elle et l'âne. Et il l'a poussée à chaque fois pour qu'elle reparte. Et malheureusement, l'âne a fracturé la clôture en emportant avec lui tout ce qui était barbelé. Alors lui, bon, heureusement aussi hein, qu'il a rien eu, mais malheureusement, mon cheval s'est mis entre lui et sa jument et il s'est entortillé le jarret, le postérieur droit avec la clôture barbelée et ça l'a ouvert complètement jusqu'à l'os.
Alors, on le sait tous parce que je sais que les auditeurs qui nous écoutent, qui connaissent les chevaux vont dire mais pourquoi l'avoir mis dans un pré avec des barbelés? On le sait, c'est bien extrêmement sûr. Dangereux. Il ne faut pas faire ça. Vous le saviez et il était prévu que ces barbelés soient retirés quelques jours finalement après l'accident. C'est vraiment un concours de circonstances. Quelques jours avant.
Et le problème, c'est que pour tout vous dire, j'ai eu un grave problème familial. J'ai dû avancer le départ, mais j'ai demandé à cette personne si les clôtures allaient être faites. Il m'avait dit oui, ça avant vendredi, ça allait être bon. Sauf qu'en fait, en arrivant, il n'y avait rien qui avait été fait. Et moi, je me voyais dans l'obligation de repartir en urgence dans ma famille.
Alors, je précise ça parce que c'est important que nos auditeurs comprennent que ce n'est pas par négligence de votre part que votre cheval s'est retrouvé dans ce pré avec le barbelé et que vous aviez parfaitement conscience que c'était un vrai souci et une source d'accident potentiel. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Donc aujourd'hui, Colt est hospitalisé à l'école vétérinaire de Maison Alfort. Ça fait quoi, 15 jours à peu près?
C'est ça, il a été hospitalisé samedi 17 avril.
Avec une très très grosse blessure au niveau du jarret, puisque vous nous expliquez que les barbelés ont entaillé la chair jusqu'à l'os, en atteignant une petite articulation sous le jarret.
C'est ça.
Et alors malheureusement, lorsque les articulations sont atteintes, quand c'est le cas comme sur le cas de Colt, ça peut et ça entraîne des infections et c'est ce qui se passe dans le cas de Colt. Ce sont des infections qui nécessitent des soins vétérinaires qui ne peuvent pas être dispensés ailleurs que dans une clinique vétérinaire et pendant encore un temps qui risque d'être long.
Oui, malheureusement.
C'est bien ça, Laurie.
C'est ça.
Avec tous les frais que ça engendre. Est-ce que vous savez déjà à peu près où vous en êtes financièrement sur les soins qui ont été dispensés?
Là, déjà, sur les soins qui ont été dispensés, la première semaine, j'atteignais 2700 euros au minimum. Et en fait, arrivé quelques jours après, étant donné qu'il a fallu le mettre sous épidurale, sous morphine, ça a vraiment augmenté à plus de 3000 euros. Là, j'atteins la dernière nouvelle, on va dire. Mais malheureusement, je n'ai pas le choix. En gros, c'est soit je le ramène chez moi et il est voué à mourir dans d'atroces souffrances.
Oui, non, mais ça, c'est pas envisageable, bien sûr.
C'est pas du tout envisageable. Oui, oui. Soit voilà, il doit rester là-bas et que je puisse l'aider au mieux.
Alors, comme je connais assez bien l'école vétérinaire de Maison Alfort pour y avoir fait mes études, j'ai passé 2-3 coups de fil, j'ai pris des nouvelles de Colt. Donc, les vétérinaires sont à la fois, entre guillemets, rassurants sur leur capacité à poursuivre les traitements. Ils restent quand même réservés sur le pronostic, hein, il faut dire les choses clairement. Parce que d'abord, pour l'instant, l'infection est toujours présente au niveau de cette articulation. Donc ça, c'est la première phase du traitement, c'est gérer l'infection et gérer la douleur. peur. Il faut éviter que Colt fasse une fourbure parce que forcément, en supprimant l'appui sur la jambe qui lui fait mal, bah, il génère un appui de l'autre côté qui peut être une source de fourbure. Et puis, une fois que l'infection sera arrêtée, une fois que la douleur sera à peu près gérée, il va y avoir toute une phase, entre guillemets, de réhabilitation avec certainement une boiterie qui deviendra chronique chez lui où il faudra gérer cette partie boiterie. Donc pour l'instant, une chose est claire pour Laurie, c'est que vous ne pouvez pas sortir Colt de la clinique vétérinaire. Il faut continuer à faire des soins. On a bien compris, vous nous annoncez 2 700 € pour une semaine de soins. Il en a pour plusieurs semaines. Donc vous avez lancé une cagnotte sur Litchi, Laurie.
Exactement, oui.
Alors cette cagnotte, on va la mettre en ligne sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Et moi, je vais donner aussi sur cette cagnotte pour, voilà, peut-être, j'espère, lancer une petite impulsion. Et on peut donner quelques euros. Si on est très nombreux à donner chacun quelques euros, ça peut aider Laurie. On est très souvent sollicité pour aider des animaux en détresse. Bien sûr, on aimerait le faire à chaque fois. On ne peut pas le faire chaque semaine. Mais là, j'avais envie de donner ce coup de pouce grâce à vos animaux et grâce à l'antenne de Sud Radio. J'espère, Laurie, qu'on va pouvoir vous aider. Ce que je vous propose, c'est qu'on mette en ligne, donc sur nos réseaux sociaux, la cagnotte Litchi. Vous pouvez nous dire rapidement comment on la trouve pour ceux qui n'auraient pas accès aux réseaux sociaux ?
Bien sûr, c'est alors malheureusement sur le, je me suis tellement dépêchée à la marquer que j'ai fait une légère faute de français, donc ça s'appelle aide aux soins pour mon guerrier.
Oui.
Et le aux soins, c'est au singulier. Bon.
D'accord.
Sur l'émotion, excusez-moi. Hein,
c'est pas grave. Aide aux soins pour mon guerrier. Donc c'est la cagnotte de Laurie sur le site Litchi. Voilà, vous pouvez y aller. Tout est validé avec l'école vétérinaire. On sait que l'argent sera utilisé uniquement pour soigner Colt et bien sûr pour ne rien faire d'autre. Laurie, vous nous tenez au courant ?
Oui, honnêtement, j'ai pas les mots pour vous remercier. Il y a pas de mots français suffisants en fait pour remercier toute cette aide pour sauver mon meilleur ami, mon compagnon de vie. Et j'ai pas les mots. Merci beaucoup, Nathalie.
Eh bien, écoutez, la meilleure manière de nous remercier, c'est de nous rappeler d'ici quelques semaines en nous disant que Colt va bien.
Oh, j'en rêve. Je l'espère. Merci beaucoup.
Voilà. Merci à vous, Laurie. Allez, tout de suite, c'est notre question veto.
Sud Radio, vos animaux. Question veto.
Bonjour, merci beaucoup d'avoir appelé le standard de Sud Radio. Je vous écoute pour cette question veto. Et c'est Céline, merci à Maxime. Merci Maxime, notre réalisateur. Je suis tellement émue par l'histoire de Laurie que Céline, excusez-moi, j'avais oublié votre prénom.
Il n'y a pas de souci parce que j'étais touchée au cœur aussi avec Laurie et son cheval Colt.
Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Céline ?
Alors, moi, mon chien, en fait, en ce moment, il n'arrête pas de manger beaucoup, beaucoup d'herbe. Du coup, je pense qu'il ressent vraiment le besoin de se vermifuger.
Oui.
Et je me demandais si c'était suffisant de le laisser faire tout seul ou est-ce qu'il faudrait lui donner un petit vermifuge, comme on fait pour les chats, par exemple.
Alors, je vais être très catégorique sur ma réponse, c'est que les chiens peuvent prendre l'habitude de manger de l'herbe. Ça peut leur faire du bien. Parfois, c'est parce qu'ils ont une gêne au niveau des intestins. Mais alors, en aucun cas, l'herbe qu'ils vont ingérer n'est un vermifuge. Ça n'ira pas tuer les parasites intestinaux. Donc, oui, il peut manger de l'herbe. Ce n'est pas grave s'il n'en mange pas en trop grande quantité. Voilà, si ça ne devient pas un toc, entre guillemets. Mais alors, par contre, vraiment, il faut le vermifuger. Pour ça, il faut que vous alliez voir votre vétérinaire, Céline.
D'accord. Oui,
voilà.
D'accord. Ok. Oui, c'est vrai qu'il s'arrête pas en plus. Donc
mais vous savez, c'est une question très fréquente. Hein. Vous n'êtes pas la seule à croire ça.
Oui.
Si
bon,
ça peut vous rassurer. Merci à vous, Céline, pour votre question.
Merci beaucoup.
Allez, on arrive à la fin de cette émission. Je rappelle la cagnotte de Laurie pour aider Colt. Ça s'appelle Aide aux soins pour mon guerrier. Allez, j'espère qu'on sera nombreux à donner quelques euros à Laurie pour aider son cheval. Merci à vous d'avoir suivi vos animaux. Je vous souhaite un excellent week-end.